Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Clapas 93.5 et sur le net www.radioclapas.fr. Allegro Vivace, chez l'émission Musique Classique qui est diffusée le dimanche à midi et le lundi à 20h, Max à l'antenne. J'espère que les vacances ont été belles, reposantes et musicales. Aujourd'hui, pour cette émission de reprise, nous continuons le cycle Gustave Mahler consacré aux symphonies avec la 6e symphonie. À partir de la 5e symphonie, Gustave Mahler s'est engagé sur un chemin nouveau en renonçant non seulement à la voix humaine, mais aussi au programme qu'il avait jugé utile pour faciliter l'accès à ses œuvres. Ainsi, faut-il se fier souvent à des indices très minces pour déchiffrer le sens, le message des 3 symphonies instrumentales, à savoir la 5e, la 6e et la 7e. Le parcours accompli par le héros imaginaire de la 5e avait paru relativement simple depuis la marche funèbre initiale jusqu'au joyeux rondo final. Dans la 6e, en revanche, la détermination, l'agressivité du premier mouvement ne font que s'accentuer dans le final qui, malgré tout, s'achève par une défaite dont rien ne vient adoucir l'amertume. Défaite, amertume, qui d'ailleurs surprennent d'autant plus que rien dans la vie de Mahler, à cette époque, ne paraît justifier un tel pessimisme. En 1903, l'année où il met en chantier la 6e symphonie, Mahler a réussi à imposer définitivement son autorité et ses conceptions très originales à l'Opéra de Vienne, dont il est le patron absolu, en amorçant une longue collaboration avec le grand peintre décorateur Alfred Roller. Comme compositeur, il commence enfin à être un peu reconnu et vient de trouver pour ses œuvres l'éditeur Peters, l'un des plus célèbres d'Allemagne. Malheureusement, on dispose de peu de renseignements sur la composition proprement dite de la 6e, car Alma Mahler, sa femme, n'a jamais été un témoin très scrupuleux de la vie créatrice de son époux. On sait seulement que Mahler, jeune marié et désormais père d'une petite fille, est arrivé à Meiernich au début du juin 1903 et qu'il s'est mis presque aussitôt au travail. Alma raconte qu'il est un jour descendu du Rauschen et lui a dit « J'ai essayé de te représenter dans un thème, je ne sais pas si j'ai réussi, mais il faudra bien que tu t'en contentes. » Il s'agit du second élément majeur du premier mouvement, un des seuls gestes résolument positifs de l'ouvrage. Un thème ascendant, puis descendant, énergique et volontaire, au-dessus duquel Mahler a noté dans la partition « Schwungvoll », ce qui veut dire « avec élan ». Le 20 juillet, selon son habitude, lorsqu'il a terminé une partition de travail, il ressent le besoin de prendre quelques distances, Mahler quitte Meiernich pour entreprendre un court voyage en train dans les Dolomites et il amène avec lui sa bicyclette. Au début des suivants, l'arrivée d'Alma à Meiernich est retardée de plus de 15 jours parce qu'elle est souffrante à la suite de la naissance de sa seconde fille, Anna, surnommée Gucki. En ce mois de juillet 1904, ciel et terre semblent s'être ligués contre Mahler pour l'empêcher de reprendre son travail. Le climat de Wurtzsee est exécrable. Pendant ces longues journées de solitude et d'oisiveté forcée, ciel chargé, orages et pluies torrentielles, Mahler lit Dorian Gray d'Oscar Wilde et les sinistres confessions de Tolstoï. Il déchiffre Brahms et Bruckner au piano. Tous les livres et toutes les musiques qu'il lit le déçoivent, mais sa propre stérilité l'accable encore plus encore. Lorsqu'il se remet enfin à composer, c'est pour achever le cycle des Kinder Totenlieder. Le temps passe et le compositeur de la 6e n'a toujours pas avancé d'un pouce, tout au moins consciemment. L'angoisse souvent ressentie d'un tarissement de sa source créatrice l'obsède, tandis qu'il s'efforce de rassembler les fragments épars de son moi intérieur, et je le cite. Au début de juillet, le temps s'est rétabli, mais du coup, la chaleur est devenue insupportable. Dites même plus, Mahler se récompense de l'achèvement de son cycle des Lieder en s'offrant une excursion éclair dans les Dolomites, juste avant l'arrivée d'Alma. Et c'est dans ce paysage fantastique des Dolomites qu'il retrouve enfin l'élan intérieur, l'inspiration qui lui permettront de terminer sa nouvelle symphonie. Lorsque la fin du mois d'août, Mahler s'apprête à regagner Vienne, il annonce l'achèvement de la 6e à ses amis Adler et Bruno Walter, qui sont de grands chefs d'orchestre, en quelques phrases brèves, mais lourdes d'une fierté évidente. Pourtant, il ne se fait déjà aucune illusion sur l'avenir de sa nouvelle œuvre, qui aura tant de mal à s'imposer que les précédentes. Il écrit « Ma 6e va poser à l'avenir des énigmes que seul pourra tenter de résoudre la génération qui aura avalé et digéré les 5 premières. Aussitôt l'œuvre terminée, il prend solennellement le bras d'Alma et monte avec elle au Rauschen pour la lui jouer. Elle affirme avoir été émue jusqu'au fond de l'âme par cette partition, la plus foncièrement personnelle, dit-elle, de toutes celles qui a jailli le plus directement de son cœur. » Une jeune amie d'Alma a laissé un témoignage très détaillé sur la vie estivale de Meiernich en 1904. Mahler joue Bach au piano, il récite pour ses proches des poèmes de Goethe, il se promène en marche sur le lac. sinon qu'en apparence, il était le plus harmonieux de tout ce qu'il a passé à Meyernich. Comment donc expliquer que ce soit sur le lui-même où il a composé la plus tragique de toutes ses œuvres? Selon Alma, il aurait reconnu plus tard, dans les trois coups de marteau du final, un signe prémonitoire des trois blessures que le destin a lui infligées en 1907. La mort de sa fille aînée, le diagnostic d'insuffisance cardiaque et le départ de Vienne. Quoi qu'il en soit, aucune de ces catastrophes ne s'est encore produite lorsque, 2 ans plus tard, au mois de 1906, Mahler se rend à Essen pour diriger la création de sa nouvelle 6e symphonie. Et pourtant, Alma décrit son état presque pathologique pendant les répétitions, son inquiétude, sa nervosité, sa tristesse, son instabilité, les doutes qui ne cessent d'assaillir et de le torturer. Tout le jeune musicien réuni autour de lui s'efforce de l'entourer et de le conseiller et de le soutenir pendant les répétitions. Plus encore qu'à l'habitude, il polie et corrige sans relâche les détails d'orchestration. À en croire Alma, il dirige presque mal la première audition, parce qu'il a honte de sa propre émotion et craint qu'elle ne submerge pendant l'exécution. Après le concert, le chef d'orchestre Wilhelm Mengelberg s'inquiète de son état. Tout se passe comme si une œuvre magnifique n'inspirait qu'une terreur à son créateur. Nous sommes sur Radio Capas, 93.5, et sur le net www.radiocapas.fr. Le premier mouvement est un allegro energico, manantrope, Eftich aber markisch, véhément mais plein de sève. Il s'agit à vue d'un allegro en forme sonate classique et équilibrée avec une exposition sagement conclue par une double barre de reprise. Derrière cette apparence rassurante se cachent en fait bien des innovations. Mahler y prend définitivement congé du monde du Knaben von Horn que l'on entrevoyait encore dans quelques épisodes de la 5e. Plus trace ici de légendes, ni de souvenirs, ni de nostalgie du passé, mais un monde cruel, presque sans séduction. Des thèmes anguleux, parfois même ingrats, caractérisés par leur vaste intervalle, par des rythmes obstinés, une atmosphère tendue, crispée et douloureuse. Le héros symphonique part en guerre sur un rythme de marche énergique, scandé par un instrument à percussion emprunté aux musiques militaires, la caisse claire. Après la double exposition du thème principal, survient au bois un thème de transition, un pont en forme de chorale, mais absolument étranger à la tradition du genre. Avec son formalisme creux et ses harmonies insolites, contrairement à ses chants de triomphe et de foi qui jouent un rôle essentiel dans les symphonies de Bruckner, c'est un choral négatif et donc l'une des innovations les plus frappantes de cette symphonie. Comme l'a montré Adorno, le musicologue allemand, il ne mène à rien et ne prépare rien, surtout pas le thème d'Alma, dont l'intrusion sera parfaitement imprévue. Le second élément thématique appartient à la famille, grande famille des motifs ascendants, donc optimistes, qui a déjà donné naissance au thème du final de la première et à celui de la direction de la seconde symphonie. Plutôt qu'Alma, il semble incarner l'idée que Mahler se fait ou veut se faire de son épouse. Car ce n'est ni le charme, ni la beauté radieuse de sa jeune compagne qu'il évoque, mais plutôt un optimisme volontaire et, pour tout dire, un peu contraint. Sans doute, Mahler a-t-il deviné déjà que Alma ne conserverait pas toujours ce rôle idéal de sœur d'armes, de compagne de tous les chemins qu'il lui avait trop ingénument confié. D'ailleurs, quelques éléments du premier thème se mélangent aussitôt au second et ils en atténuent bientôt le caractère positif. Un épisode du développement mérite attention, ce moment de calme idyllique où le bois et les vents échangent des bribes et des variantes du thème d'Alma sur un fond de trémolo de violon. On y entend pour la première fois les cloches de vaches, symbole d'isolement bienheureux au-dessus de la mêlée humaine. À la fin du mouvement, la conclusion majeure revient à l'allure plus emphatique que vraiment triomphale, comme si le héros voulait se convaincre d'avoir vaincu sans croire vraiment à sa victoire. On va vous écouter le début de ce premier mouvement de la 6e symphonie. C'est Klaus Steinstedt, un grand malérien, qui dirige le London Philharmonic Orchestra. Il s'agit d'un live de 1992. Thank you. Le second mouvement, Scherzo Wüstisch, c'est-à-dire pesant, Allemand nous a livré pour son mouvement une clé aussi peu convaincante que possible. Les gestes rythmiques des deux petites filles dans le jardin de Meyernich, en 1903, datent certaines de la composition des deux mouvements intermédiaires. Anna n'est pas encore née, et quant à Pützi, elle n'avait encore que 8 ou 9 mois. On serait plutôt tenté de voir dans ce scherzo une danse de mort, d'inspiration médiévale, une danse des morts qui prolongerait la tradition instaurée par la marche funèbre à la manière de Callot de la première symphonie. J'ai dit danse, mais il faut bien pourtant admettre que cet étrange scherzo ne danse jamais vraiment, ou plutôt qu'il danse en boitant, car le rythme ternaire est sans cesse contrarié par des accents placés sur les temps faibles. Le climat général est lugubre et grimaçant, et l'orchestration y contribue, avec des instruments aux sonorités aigres ou caricaturales, comme la petite flûte, la clarinette à mi bémol et le xylophone. Avec ces changements de maître, son instabilité rythmique, ses contrepoints cérémonieux et surannés, le trio, alt, vétériche à l'ancienne, n'est guère moins convaincant. On croirait voir évoluer, avec une gaucherie pathétique, des marionnettes dérisoires, vêtues d'habits poussiéreux. On va écouter la fin de ce second mouvement de la 6e symphonie, et c'est le chef russe Dima Slobodeniuk qui dirige l'Orchestre symphonique de Galice. Il s'agit d'un live de 2016. Thank you. Le troisième mouvement, Andante moderato, en mi bémol majeur, dans l'univers hostile et cruel de cette symphonie, cet andante introduit le seul véritable contraste. Son lyrisme épanoui en fait même le seul authentique mouvement lent de Mahler avec celui de la quatrième. Le thème initial, souvent accusé à l'époque de banalité, a été analysé en détail par Schoenberg, qui en souligne les asymétries, les ellipses et surtout le fait qu'il n'est jamais réexposé sous sa forme initiale. Du point de vue mélodique, il appartient encore à l'œuvre des Kinder Total Leader, même si l'on ne retrouve pas ici le même climat de deuil. Deux épisodes se succèdent et s'opposent, le premier aux cordes et le second en mineur au vent. Mais ils vont bientôt se mêler et même se confondre. Les triolets qui tournent sur eux-mêmes, les trilles d'oiseaux et les cloches de vaches évoquent le calme bienheureux de la nature dans laquelle Mahler puisait une grande partie de son énergie créatrice. Vous écoutez la fin de ce troisième mouvement de la sixième symphonie, et c'est Marie Janson qui dirige le Royal Concertgebouw Orchestra. Il s'agit d'un live de 2006. Thank you. le quatrième mouvement, le final, sostenuto, allegro, moderato, schwer, lourd, marcato, allegro, energico. Il s'agit d'un morceau de dimension épique, près de 42 minutes, le plus étendu de Mahler, à l'exception de la seconde partie de la huitième, dont la forme est conditionnée par le texte de Goethe, l'immense roman symphonique dont le souffle et le raffinement compositionnel excède tout ce que Mahler a créé jusqu'ici, et ponctué de 4 retours d'introduction lente. Le début d'introduction nous plonge dans la nuit la plus noire, dans un chaos de fin du monde. Des bribes de thèmes surgissent de l'obscurité pour y retomber aussitôt, après le grand cri initial des violons, qui ne révèle vers l'aigu que pour retomber ensuite vers le grave des violoncelles, on entend successivement le double leitmotiv, l'un harmonique et l'autre rythmique de l'ouvrage, puis un motif de saut d'octave au tuba, souvenir du thème initial du premier mouvement, puis encore un motif d'arpège emprunté au scherzo, et enfin une anticipation du second thème, seul élément optimiste de ce final. Toutefois, l'élément le plus frappant est l'épisode paradoxal négatif, celui du premier mouvement. Que symbolise-t-il ? La résistance à la matière, le destin implacable auquel nul homme n'échappe, la mort, en tout cas son immobilité, sa rigidité, son formalisme et ses thèmes graves lui donnent un caractère profondément hostile. Le thème principal de l'Allegro est composé de tous les éléments déjà connus de la première reprise de l'introduction, le cri initial inversé, descendant puis ascendant et harmonisé différemment, introduit le développement, mais toute tentative d'analyse succincte doit ici s'interrompre. En effet, ce développement est à la mesure de l'ensemble puisqu'il compte près de 300 mesures sur les 822 du final tout entier. Deux coups de marteau séparent les grandes sections de cette prodigieuse mêlée. Dans la reprise qui est considérablement abrégée, l'ordre des deux éléments thématiques principaux est inversé, le majeur précédant le mineur comme leitmotiv principal de l'ouvrage. Une dernière variante du cri initial, accompagnée dans ces dernières mesures par le leitmotiv majeur-mineur et le rythme lancinant du second, annonce la catastrophe finale. Aucune musique connue ne dépasse cette coda pour ce qui est du dépouillement et de la désolation. Le motif du saut d'octave, au ralenti, est échangé par les instruments les plus graves de l'orchestre dans une sorte de traîne lugubre de chants funèbres accablés. Tout se termine par une dernière reprise du motif d'octave, cette fois aux cordes graves, reprise qui sera brutalement interrompue par un puissant accord mineur, non précédé cette fois du majeur, scandé par l'aimotif rythmique en diminuendo. Tout est consommé dans le désespoir, la nuit de l'âme, la défaite qui illustre ce rythme lancinant. Y a-t-il lieu de spéculer encore sur le sens de cette conclusion? Cadrons-nous sous ce titre « Tout est mal qui finit mal ». Il semble que chaque être humain traverse des moments de désespoir absolu et que Mahler est ici lui-même tout autant que les accents triomphaux de la 8e symphonie. Le créateur se devait d'emprunter un jour cette voie des ténèbres pour découvrir dans les œuvres suivantes d'autres chemins menant à de tout autres issues. La noirceur de la 6e était une étape indispensable à son évolution. Elle allait le naturellement le porter vers des horizons bleutés, vers cette perspective lumineuse qui, à la fin du chemin de la Terre, ouvre sur l'éternité. On va écouter le final de cette symphonie, dans le quatrième mouvement, et c'est Carlos Paita qui dirige l'Orchestre National de Belgique. Il s'agit d'un live de 1980. Les impacts de cette sixième symphonie sur le public sont énormes. C'est une œuvre gigantesque, pétrifiante, accablante, irrésistible. Il faut absolument avoir entendu ça dans un concert par un grand orchestre et un grand chef. C'est merveilleux. Ainsi se termine cette émission consacrée à la sixième symphonie de Mahler. Je rappelle que la semaine prochaine, sur Radio Clapas, 93.5, nous attaquerons à l'autre monument qu'est la septième symphonie entièrement instrumentale. Merci. Et rendez-vous la semaine prochaine, donc, le dimanche à midi et le lundi à 20h sur Radio Clapas 93.5. Au revoir.